Bienvenue dans le podcast de l'atelier de l'orthophoniste. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, ça faisait un moment que j'en avais pas enregistré de nouveau. Je suis vraiment ravie du coup de pouvoir en réenregistrer et de relancer un petit peu ces épisodes qui me tiennent tant à cœur. Alors, pour ce nouvel épisode, justement, je reçois une invitée, Marie Poirette, qui est orthophoniste comme moi et qui, elle, est particulièrement spécialisée dans la prise en charge de l'oralité alimentaire. Ensemble, on va en discuter et vous en apprendre plus, je l'espère, sur ce sujet. Coucou Marie!
Hello.
Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'atelier de l'orthophoniste. T'es la première à inaugurer du coup une petite série de podcasts en discussion, comme ça, en interview. Et je suis ravie de commencer avec toi.
Bah trop bien. Merci pour l'invitation. Ça me fait trop plaisir.
Voilà, je te présente un petit peu. Donc toi, t'es Marie, orthophoniste, et du coup, tu as le compte Instagram et TikTok aussi, du coup, parents équipés. C'est le même nom
C'est
pour
ça.
les deux?
Exactement, au singulier parent underscore équipé.
Ok, super. Et donc, sur ces comptes-là, tu parles surtout d'oralité alimentaire, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Je trouve que ton compte, il est super dynamique, beaucoup d'infos, plein de super bonnes idées. Et tout ça transmis avec beaucoup de dynamisme et de peps. C'est hyper. Enfin voilà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vous invite à aller voir le compte de Marie parce que vraiment, il est très, très chouette. Et du coup, aujourd'hui, je t'invite pour parler d'oralité alimentaire, justement, parce que c'est apparemment un domaine qui te passionne.
C'est ça.
Et d'ailleurs, du coup, la première question, ça a été. Alors, ce que j'ai fait, du coup, sur mon compte Instagram, une petite boîte à questions. Donc, j'ai reçu des questions d'abonnés, voilà, de parents,
Ouais.
principalement. Et du coup, on va y répondre ensemble. Mais moi, j'avais une première question à te poser. C'est pourquoi est-ce que le domaine de l'oralité alimentaire. Alors, peut-être que, du coup, on va quand même répondre à la première question d'un parent, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'oralité alimentaire, déjà, peut-être avant, pour
Oui,
présenter
t'as
les choses.
raison. Ça fait plus
J'ai quand même
sens.
quelques. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui m'a demandé qui savait pas, en fait, jamais entendu parler de ce thème. Qu'est-ce que c'est? Comment tu définirais ça, toi?
En fait, le terme oralité alimentaire, en fait, oralité, c'est ce qui va se passer au niveau oral. Et on a l'oralité verbale, le fait de parler, et l'oralité alimentaire, le fait de se nourrir. Donc, en gros, l'oralité alimentaire, c'est juste l'alimentation. Mais on va parler de troubles de l'oralité alimentaire, qu'on appelle maintenant des troubles alimentaires pédiatriques, quand il y a des difficultés, donc un trouble au niveau de l'alimentation, en gros.
Ok, tout simplement. Et
Tout simplement.
c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient étonnés que ce soit les orthophonistes qui prennent ça en charge. Alors, il y a aussi les ergothérapeutes. Mais
Non.
en gros, est-ce que tu peux nous résumer un peu quelle serait notre intervention en tant qu'orthophoniste? Pourquoi est-ce qu'on s'adresse à une orthophoniste quand on a un
C'est
trouble de l'oralité alimentaire?
vrai que ça étonne pas mal les gens et souvent on me dit, ah bon, j'aurais pensé à une diététicienne ou des choses comme ça.
Moi, j'ai
En
eu
fait,
psychologue. C'est vrai qu'ils ont l'impression que le trouble
aussi.
alimentaire, tu vois, boulimie, anorexie, tout ça, c'est lié à des choses plus
Oui.
psychologiques. Mais c'est vrai que du coup, nous, on intervient plutôt dans un autre cadre.
C'est ça. En fait, les psychologues, les diététiciennes, etc., vont avoir une place prépondérante et nous, surtout nous, on n'en aura pas dans les troubles du comportement alimentaire,
Voilà.
anorexie, boulimie, etc. Là, ça peut être hyper intéressant de travailler en partenariat avec des psychos, des diètes, etc. Moi, je le fais souvent, mais on n'est pas sur un trouble du comportement alimentaire, on est sur un trouble de l'oralité alimentaire qui, en fait, a une origine motrice et sensorielle et qui va du coup créer des mauvaises expériences autour de l'alimentation. Et l'accumulation de ces mauvaises expériences va créer bah, ni plus ni moins qu'une phobie. Donc, bien sûr que une psychologue ou une psychologue vont venir pouvoir intervenir au niveau de cet aspect très phobie, mais bah, vous imaginez bien que si jamais on ne règle pas le problème ni sensoriel ni moteur, on peut essayer de travailler sur la phobie, les mauvaises expériences vont continuer de s'accumuler. Donc, en fait, travailler sur la phobie alors que le fond n'est pas réglé, bon, bah, typiquement, ça fait moins sens. Donc, c'est là que nous, on va intervenir. Sur le côté, donc, où on va proposer une rééducation, un accompagnement sensoriel pour venir désensibiliser, etc., au niveau de la bouche, de la sphère orale. Alors là, totalement, les ergos, les psychomotes peuvent proposer le même travail, il n'y a pas de souci. Mais aussi sur d'un point de vue moteur, et donc notamment mouvement de langue, placement oral, mouvement de mastication, etc. Là, effectivement, c'est plutôt nous, même
Oui.
si je sais qu'effectivement, Voilà, typiquement, des ergots peuvent aussi le proposer. Et évidemment, des techniques de rééducation alimentaire efficaces. Donc, où voilà, il ne suffit pas de rééduquer, là encore, le senso, le moteur, et de se dire, bah, ça va se régler tout seul, ça va aller mieux. On va venir aussi mettre en place des techniques alimentaires de diversification. En fait, on va venir
Oui.
reprendre étape par étape ce qui n'a pas pu fonctionner au moment de la diversification pour des raisons sensorielles ou motrices. Mais clairement, d'avoir un ou une psycho dans la boucle, c'est hyper intéressant. Surtout si la peur s'est énormément développée, que la phobie est présente et que la personne est terrifiée.
Ben oui, c'est clair. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement? Pourquoi est-ce que c'est un domaine que tu as particulièrement investi, dans notre champ de compétences?
Bah du coup, à la base, moi, je me suis énormément spécialisée en autisme et je travaillais en hôpital de jour dans un service spécialisé dans l'intervention précoce en autisme. Et du coup, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants autistes. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit souci, qu'en général, ils n'étaient pas trop copains avec la nourriture. Certains, pas de problème, mais d'autres, vraiment des grosses, grosses difficultés. Et donc, c'est dans le cadre de l'autisme que j'ai découvert les troubles de l'arrêté alimentaire. Mais c'est en me formant que j'ai aussi découvert qu'en fait, ça touchait énormément d'enfants n'ayant aucune pathologie associée. En fait, alors le chiffre date un peu et la statistique est à prendre avec des pincettes, mais on dit qu'un enfant sur quatre n'ayant pas de pathologie associée est touché par les troubles d'oreillette alimentaire. Alors
C'est énorme,
évidemment,
hein?
c'est... Comment?
C'est énorme, je ne connaissais
C'est
pas ce
énorme.
chiffre, c'est énorme.
Alors en fait, la stat est plus détaillée que ça, parce qu'elle fait un petit peu... Je l'aime. Je l'aime bien et je l'aime pas cette stat en même temps. Parce que d'un côté, elle montre une réalité du terrain où beaucoup plus d'enfants que ce qu'on croit sont atteints. Et d'un autre côté, elle est un peu trop vendeuse. Alors qu'en fait, c'est un enfant sur quatre a ou a eu des difficultés s'apparentant à des troubles d'oreillette alimentaire, y compris légère, si tu veux, que en fait, ça passe tout à fait inaperçu. Et d'ailleurs, typiquement, moi, cette pathologie-là m'intéresse particulièrement, elle me touche particulièrement, parce que c'est en me formant que je me suis rendu compte que j'avais un trouble de l'oralité alimentaire. Donc, mais là encore, moi, c'était suffisamment léger pendant toute mon enfance. Bien sûr, il y avait des indices, hein, il y avait des particularités, on ne peut pas dire que ça ne se voyait pas. Mais j'avais pourtant deux parents médecins et personne ne s'est jamais dit, oh là là, elle a un problème. Mais parce que j'avais quand même une alimentation suffisamment variée, ça passe inaperçu et qu'on se dise oui, bon, d'accord, elle n'a pas envie de manger ça, point barre, quoi.
Mais moi, tu
Donc
vois,
voilà.
je m'en suis aperçue aussi en étant orthophoniste, hein. Enfin, et en ayant des enfants après coup, il y a beaucoup de choses aussi que tu analyses une fois que tu as des enfants, que j'avais des particularités sensorielles en tout cas. Je ne savais pas du tout nommer ça avant d'avoir fait les études qu'on a fait et de faire le boulot qu'on fait, mais je m'en suis rendu compte vraiment en relisant un peu mon enfance aussi, que j'avais vraiment des difficultés sensorielles pour pas mal de choses en fait, surtout au niveau tactile, et que ça avait des répercussions effectivement sur l'alimentation. Et on me disait toujours que j'étais un peu. Ben, un peu difficile ou un petit peu chochotte ou un petit peu, enfin tu vois quoi, pour plein de choses comme ça. Bon, moi, il n'y avait pas que l'alimentation en fait, du coup, hein, c'était même, mais bon, c'est parce que du coup, j'ai revu ça avec ma fille après. Voilà, le fait d'avoir du mal à se coiffer les cheveux, à faire des shampoings, à accepter certaines textures, voilà. Et du coup, j'étais considérée un peu comme la princesse au petit pois ou la chochotte, donc celle qui peut pas dormir ailleurs que dans son lit. Enfin, voilà. Mais je me suis rendu compte après ça, effectivement, que c'était lié en fait à beaucoup de difficultés sensorielles, comme quoi, du coup, voilà, il n'y a pas de hasard non plus,
Mais
mais.
c'est aussi pour ça que cette stat-là, finalement, elle est représentative, parce que le trouble de l'oralité alimentaire, c'est un petit peu un spectre aussi, comme on le verrait pour le spectre autistique, c'est-à-dire que tu as vraiment des personnes qui vont pouvoir rien manger, ça va être très, très, très difficile, qui ne mangeront que des pâtes au beurre de telle marque et du riz de telle marque cuit de telle façon. Et tu as des personnes qui seront... Oh, pour qui on ne va pas diagnostiquer le trouble, mais on a tous des particularités sensorielles, tu te trouves forcément quelque part sur le spectre, et du coup, cette stat de 1 sur 4, moi, elle me parle parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde atteint. Alors la vraie question, c'est est-ce que ces gens-là en souffrent? Si les gens n'en souffrent pas et vivent super bien avec
Mais
dans leur
voilà.
vie, il n'y a aucune raison de s'impliquer, de venir dire, oh, bah, viens, je vais
Et
t'attraper, je vais
d'aller chercher les
t'éduquer.
problèmes aussi, c'est sûr, hein.
Oui, exactement. Donc, mais par contre, il y a des personnes qui en souffrent et qui n'ont jamais su que c'était ça, et pour qui, ne serait-ce que savoir, c'est vraiment une libération, en fait.
Du coup, deuxième que... enfin, question un peu liée, c'est-à-dire que en fait, on peut avoir un trouble de l'oralité sensorielle. Enfin, je connais la réponse, mais je le fais pour nous. Du coup, à enfin, de l'enfance à l'âge adulte, en fait. C'est-à-dire que des adultes peuvent présenter des particularités sensorielles et des troubles de l'oralité alimentaire.
Complètement. Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. D'autant que le nouveau terme, c'est trouble alimentaire pédiatrique. Donc, on se dit tout de suite, ah, c'est que pour les enfants. Mais en fait, sans prise en charge efficace ou adaptation spontanée de la part de la personne, il n'y a aucune raison que ça s'améliore. Alors, je dis ça, mais c'est un peu faux, puisqu'il se trouve effectivement que vers l'adolescence et l'âge adulte, souvent, on constate des petites améliorations spontanées. C'est parce que la personne s'adapte, la
Oui, c'est
personne trouve
ça.
des techniques, et puis surtout, on n'a pas les mêmes attentes de la part d'un enfant et d'un adulte. C'est-à-dire que l'enfant, il va manger en collectivité, on va attendre qu'il mange ce qu'on lui donne, qu'il ait une alimentation variée. L'adulte, en soi, si chez lui, tous les soirs, il mange des pâtes au beurre et du cordon bleu, en soi, personne ne le saura.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est
Mais.
surtout ça, c'est qu'une fois qu'on est autonome et qu'on vit chez soi, on
Ben oui.
adapte forcément beaucoup plus. Et ça devient. Bah, je crois que c'était sur le compte d'Élodie Crépel que je voyais ça, tu sais, celle qui parle beaucoup de douance et de troubles, enfin, d'hypersensibilité et tout ça, bah, qui dit, et de troubles de l'attention. Enfin, je pense que c'est vrai pour beaucoup de troubles, en fait. Le trouble, il est majoré, voire il est très présent quand l'environnement autour n'est pas adapté, en fait. Et
Complètement.
c'est sûr que plus tu adaptes, et c'est du coup valable aussi pour l'alimentation, hein, et du coup en tant qu'adulte, on va forcément éviter un petit peu ou adapter, mais du coup forcément ça va être moins visible et peut-être moins difficile à vivre. Mais bon, après ça peut être difficile en vie en société, quoi. Enfin, je veux dire au
Ouais, voilà.
restaurant,
Les adultes qui vont avoir
quand
des
tu vas
troubles
chez
très
des amis.
marqués et qui vont en souffrir, c'est ça. C'est des adultes qui vont se retrouver à devoir refuser des invitations, à être complètement paralysés face à certaines nourritures, à avoir des problèmes de santé auxquels ils peuvent pas faire face, parfois des problèmes de surpoids auxquels malheureusement ils ne peuvent pas faire face. Puis alors, j'ai jamais trouvé d'études prouvant le lien direct entre troubles de l'oralité alimentaire et troubles du comportement alimentaire. Cependant, avec quelques diététiciennes spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire, on a fait des recherches et j'ai lu pas mal d'études autour de ça. Même si actuellement, aucune étude à ma connaissance ne met les deux en lien direct, en fait, quand tu regardes des études sur les deux pathologies, les facteurs de risque, choses qui peuvent se passer à tel moment dans la vie, en fait, sont les mêmes. Donc, on peut
D'accord.
imaginer que quand même, il puisse y avoir un lien. Évidemment, de toute façon, dans les deux cas, c'est pas une relation apaisée avec la nourriture. Donc, typiquement, une personne qui aurait des troubles du comportement alimentaire et qui dirait, mais moi, j'ai pris énormément de poids à cause de ces troubles du comportement alimentaire et j'ai vu des diététiciennes qui m'ont culpabilisé, qui m'ont dit, bah oui, bah il faut manger des salades et tout, sauf que j'en suis incapable parce que j'ai la phobie des fruits et légumes. Tu vois, ce
Non,
cercle
mais les
vicieux
crudités, c'est pas
horrible.
forcément facile à manger pour tout le monde non plus, tu vois, ou enfin.
Clairement.
Enfin, voilà, du coup, ouais, non, mais complètement, hein, faire un régime alors que du coup, tu peux pas introduire tous les aliments dans ton alimentation, forcément, ça, ouais, non, mais c'est sûr que pareil, ça doit être aussi un continuum où il doit y avoir vraiment des points de jonction à ce niveau-là, ou alors, enfin, ouais, c'est vrai que je me suis jamais penchée sur la question, mais ce serait hyper intéressant de mener des études à plus approfondies.
Ouais.
Justement pour voir bah, quelles sont les intrications entre troubles de l'oralité alimentaire et puis ensuite troubles du comportement
Ouais.
alimentaire. Mais
Bah, typiquement, alors moi, évidemment, je peux pas te sortir une étude parce que, juste sur mon exemple, mais pour le coup, moi, j'ai les deux. J'ai toujours eu les deux. À l'adolescence, j'ai développé les troubles du comportement alimentaire et j'ai eu la chance de pouvoir être suivie pour ces troubles du comportement alimentaire et de pouvoir être, alors. Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire guérie pour un trouble, mais en tout cas, ça s'est énormément amélioré. J'ai été accompagnée sur les troubles du comportement alimentaire et donc je n'en subis plus les conséquences au quotidien aujourd'hui. J'en suis sortie en tout cas pour l'instant. Et en fait, la sortie des troubles du comportement alimentaire a aggravé énormément le trouble de l'oralité. Parce
Ah
qu'il y
oui.
a eu tout ce travail de être plus en confiance avec la nourriture, se poser les questions, etc. Enfin, se reconnecter avec la nourriture. Et en fait, bah, se reconnecter, être plus à l'écoute, être plus en conscience. Autant avant, quand il y avait, tu vois, des choses comme des crises, manger des grandes quantités et tout ça, comme tu as des genres de compulsions, de toute façon, ce que tu as devant toi, tu le manges. Tu manges à peu près n'importe quoi. Et en fait, de sortir de ces troubles-là, ça a énormément renforcé le trouble de l'oralité, où là, il y a plein de choses qui passaient, qui passent plus.
D'accord. Voilà,
à voir si des études un jour expliquent ça pour nous.
C'est hyper intéressant en tout cas comme réflexion autour de ça. Justement, bah, du coup, j'ai une autre question qui est une question assez classique qui revient souvent, mais j'aurais bien aimé entendre ton avis là-dessus. Une maman qui demandait, un enfant qui ne veut pas manger, est-ce qu'il faut forcer ou forcer à goûter?
Alors, bah, la réponse, je vais détailler, mais la réponse est non, quoi qu'il arrive, parce que ça dépend aussi ce qu'on appelle forcer, mais en fait, soit l'enfant a un trouble de l'oralité alimentaire, forcer ne servira à rien puisqu'il est incapable de manger, peu importe la raison, qu'elle soit sensorielle, motrice ou les deux, il n'en est pas capable. Donc forcer, ça va juste lui mettre la pression, et en plus, là pour le coup, il a bien été prouvé que la pression au moment des repas et le forçage alimentaire aggravent le trouble de l'oralité alimentaire. Donc on va juste se retrouver dans une situation pire. Si l'enfant n'a pas de trouble de comportement alimentaire, de toute façon, forcer a priori ne vaudra pas le coup, parce que la néophobie alimentaire un petit peu classique n'est pas dépassée par le forçage, mais dans toutes les études, il est bien montré qu'elle est dépassée par l'apprentissage, le mimétisme, l'envie de faire comme les grands, etc. En revanche, si votre enfant n'a pas de trouble de l'oralité alimentaire, dans le sens sensoriel, moteur, etc., phobique, forcer un enfant et mettre de la pression au moment des repas, etc., bah, c'est ce qu'on disait avant par rapport aux autres études, là, c'est le meilleur moyen d'obtenir, pour le coup, à l'adolescence, à l'âge adulte ou même avant, des
troubles du comportement alimentaire. Du trouble du comportement, vers le trouble du comportement,
ouais.
C'est clair. Donc de toute façon, ce n'est pas la solution.
Voilà. Par contre, si vous vous sentez démuni, qu'il y a un vrai souci avec un enfant qui ne mange pas suffisamment, parce que évidemment il ne s'agit pas de dire aux parents bah non, vous forcez pas, voilà, allez hop, merci, au revoir, bonne journée, débrouillez-vous. En fait, non, parce qu'on l'entend. Hein.
Alors, oui, c'est sûr.
Et encore, c'est
tu
moins
forces pas,
pire
mais que tu ne donnes pas de solution.
Oui, c'est ça. C'est moins quoi, pire que quand ils disent il faut le forcer, parce qu'il y a encore beaucoup de pros de santé qui ne le savent pas et qui disent il faut forcer. Et là, voilà. Mais évidemment, si par contre il y a une vraie inquiétude à ce niveau-là, que clairement vous sentez que quelque chose ne va pas parce que vous le sentez, je crois qu'il faut un peu rendre aux parents ce qui leur appartient quand quelque chose ne va pas, ils le sentent même sans être pro de santé.
Il faut s'écouter, quoi.
Voilà, à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter, à rencontrer, bah, comme on l'a dit en début de podcast, une orthophoniste, une ergothérapeute, une psychomote spécialisée. Je sais qu'on n'est pas que des femmes, mais je ne peux pas m'empêcher. On est tellement de femmes que je dis une.
Bah, c'est sûr. Là, quand même, le féminin l'emporte, on peut le dire. Hein, parce que bah, justement, du coup, alors j'ai deux questions qui sont un peu liées à cette question-là. Donc, on est OK qu'il ne faut pas forcer. Mais justement, donc, j'ai une maman qui disait comment est-ce que ça se passe pour accompagner l'enfant, justement, quand c'est la cantine qui force, en fait. A priori, donc là, à la maison, voilà, les parents ont mis en place leur stratégie, voilà. Mais quand même, l'enfant est forcé à la cantine. Est-ce que tu as des pistes? Qu'est-ce que tu conseilles aux parents dans ces cas-là?
Bah, c'est compliqué parce que malheureusement, on a, je trouve, cet héritage qui nous vient de je ne sais pas où, où les parents ne sont jamais pris au sérieux, ou si un parent vient dire « alors attention, parce que mon enfant est différent, il faudrait faire attention à ça », bon, on va dire la vérité, hein, le parent passe pour un emmerdeur, on va dire non mais tout de suite, ah oui non mais vos enfants ils sont toujours différents, non, en fait, soit discussion est possible avec la cantine,
il faut commencer par là, c'est sûr.
Oui, bien sûr.
Essayer de dire, à mon avis, il faut essayer de prendre contact avec l'école, et essayer du coup de discuter avec la maîtresse ou la directrice, et ou les deux, à mon avis, et la cantine. Enfin, du coup, je ne sais pas qui... Enfin, moi, je ne sais pas du coup dans les écoles comment ça se passe. Mais enfin, il faut mettre dans la boucle, à mon avis, l'enseignant et la directrice pour pouvoir parler de ça. Je ne sais pas s'il y a des PAP ou des PAI qui sont mis en place dans ces cas-là.
Je pense que l'important, c'est de pouvoir informer. Déjà, venir voir les pros de l'éducation. Si vous pouvez, moi, ce que je propose aux parents, c'est d'imprimer des petites planches informatives, des petites plaquettes qui tiennent sur une feuille A4, qui reprennent les différents symptômes, qui expliquent un petit peu. Ça, parce que les gens acceptent toujours mieux lorsqu'ils comprennent. Si on dit juste non mais il ne faut pas forcer, il est différent, point barre, ça passe rarement, alors que de pouvoir expliquer, ça passe bien. Si jamais ça ne marchait pas malgré tout, effectivement il y a la possibilité de mettre en place un PAI où là pour le coup c'est le médecin qui va venir remplir un document, et ça, le PAI, donc le projet d'accueil individualisé, va permettre que l'enfant en fait, soit traité différemment à la cantine, soit en amenant son repas, soit en amenant des petites choses en plus du plateau repas, soit en mangeant à la cantine lorsqu'il peut et en ayant quelque chose à côté qui vient de la maison pour compenser les jours où il a vraiment rien pu manger. Et là, pour le coup, c'est une décision médicale et je sais qu'on me pose souvent la question, l'école ne peut pas refuser un PAI.
Ouais, ouais, il ne peut pas s'y opposer. Ça, ouais.
Voilà.
Donc, c'est la, on va dire que c'est l'étape supérieure quand il n'y a pas eu de choses un peu à l'amiable qui a pu être mise en place en concertation avec l'équipe pédagogique. Je pense qu'effectivement, après, c'est bien de passer par quelque chose de plus médical, du coup, et encadré par le médecin. Mais effectivement, le PAI ne peut pas être refusé ni en crèche, du coup, parce que c'est le cas dans les crèches aussi, hein, ni dans les écoles. Mais moi, je suis
Mais d'ailleurs, on peut mettre en place un PAI même quand ça se passe très bien avec l'école.
C'est vrai. Non, mais complètement.
Juste pour que la... Parce que en revanche, pour même l'école, quand ça se passe très bien, n'aura pas le droit de donner autre chose à manger à l'enfant, en fait. Donc, ils auront besoin de ce PAI-là pour que l'enfant puisse venir avec de l'alimentation en plus ou que la cantine puisse lui faire un petit plateau à part. Parce que malheureusement, dans les collectivités, c'est la loi, on n'a pas le droit de commencer à filer autre chose que ce qui est dans le circuit à l'enfant. Donc, même si ça se passe très bien avec votre école, et parfois, c'est les enseignants qui vont vous dire, ce serait peut-être chouette d'essayer de faire un PAI pour qu'on puisse, quand on voit qu'il manque un peu d'énergie ou qu'elle n'a pas bien mangé le midi, lui donner un petit peu de ce que vous nous aurez confié, et hop, ça repart et on recharge les batteries.
C'est vrai que c'est très réglementé, ils peuvent pas se ça les décharge justement. Ils peuvent prendre la responsabilité dans ces cas-là, du coup, de donner de la nourriture. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement encadré, hein, tout ça. Extrêmement encadré, hein, parce que moi, je sais qu'à l'époque où j'étais à l'école, en fait, on avait des goûters qui étaient donnés par l'école.
Oui,
on goûtait au sein de l'école. Enfin, moi, le matin, j'avais du pain, de la compote, du lait, des briquettes de lait et tout. Enfin, j'ai l'impression que tout ça, ça a complètement disparu de l'école. C'est complètement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un rapport à la nourriture à l'école, même de faire des gâteaux et tout. Il y a des écoles qui laissent tomber et tout parce qu'il y a toutes les normes d'hygiène et tout ça et d'intolérance alimentaire. Et enfin voilà. Ouais. Mais alors que moi, c'était beaucoup plus détendu que ça à mon époque. En tout cas, pourtant, je suis pas vieille, mais enfin, en tout cas, j'ai l'impression quand même que c'était, c'est devenu
une petite ambiance années 90 qui était vachement plus détente.
quand même, qui était moins normée. Là, c'est un peu plus hygiéniste et un peu plus normalisé tout ça. Mais enfin, bon. Alors, j'avais une autre question aussi qui découle un peu de ce qu'on s'est dit, mais voilà, on va résumer quand même. Enfant de 3 ans qui a priori, du coup, un problème de néophobie alimentaire. On n'a pas trop défini ce que c'était que la néophobie alimentaire. Je pense que c'est pas mal de le faire. Mais la maman, du coup, demandait s'il fallait consulter, parce que du coup, je pense qu'on le sait que tous les enfants passent par une période de néophobie alimentaire. Enfin, du coup, on va définir ça, dire que c'est quand même quelque chose qui est normal. Mais quand est-ce qu'on consulte? Et qui on consulte? Ça, tu l'as déjà dit un peu, mais on va le redire là pour faire un petit topo sur la néophobie alimentaire.
Ouais. Du coup, la néophobie alimentaire, purement étymologiquement, c'est la peur de la nouveauté. Et donc, néophobie, peur de la nouveauté, alimentaire, peur des aliments nouveaux. Et souvent, on me dit, mais est-ce que la néophobie alimentaire et le trouble de l'oralité alimentaire, c'est pareil? Non, dans le sens où la néophobie, c'est juste la peur des aliments nouveaux. Et ça, c'est l'un des symptômes. Donc, du trouble de l'oralité alimentaire ou trouble alimentaire pédiatrique. Cette néophobie alimentaire-là, il y a une période de néophobie alimentaire classique et tout à fait normale chez tous les enfants qu'on observe entre 2 et 10 ans et plus spécifiquement entre 4 et 7 ans. Les enfants n'aiment pas trop goûter de nouveaux aliments, vous leur préparez des trucs qu'ils disent « j'aime pas », mais en même temps, ils ont à peine goûté du bout des lèvres. C'est normal parce que l'enfant gagne en autonomie. Et donc, d'un point de vue développemental, cet enfant doit apprendre à trier, à dire non, à dire oh là là, à être capable de définir ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. Donc en fait, il va construire ses propres goûts et ça va démarrer par du rejet de je n'aime rien. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça se dépasse avec l'apprentissage, le mimétisme, l'envie d'être comme les grands, etc. Pour définir qu'il y a un trouble de l'oralité alimentaire, du coup, il faudrait observer de nombreux symptômes, parmi lesquels on va avoir la néophobie, la sélectivité alimentaire, par couleur, par texture, par température, par lieu, etc. Mais aussi, parfois, des troubles du comportement au moment du repas, des enfants qui se cachent, qui pleurent, qui crient, qui jouent au lieu de manger, de la longueur des repas, parfois des nausées et des vomissements. face aux aliments, parfois de la dyspepsie, donc le refus de s'hydrater, et puis parfois aussi, comme on le disait, des particularités sensorielles, donc des enfants qui, à côté de ça, vont avoir des hypersensibilités olfactives, tactiles, etc., etc. Donc en fait, il faut plein de symptômes qui ne sont pas juste de la néophobie, pour se dire il y a un trouble, il y a un problème. Et pour déterminer s'il y a un trouble de l'oralité alimentaire, on va se baser sur l'importance et la persistance de ces symptômes-là. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez un enfant super malade qui vient de se taper une bonne bronchite, il y a de grandes chances qu'il développe des troubles du comportement au moment du repas, qu'il mette du temps à manger, peut-être même qu'il ait des nausées ou des vomissements, etc.
Oui, ou la gastro, une suite de gastro, pour reprendre l'alimentation, c'est dur. Hein.
Voilà. C'est pour ça que, je vous dis, il y a l'importance des symptômes, d'une part, mais aussi la persistance. C'est-à-dire que si c'est pendant une semaine après une gastro ou une suite de gastro, on se dit, ok, j'observe, je fais attention.
Puis depuis quand ça date, est-ce que du coup, c'est arrivé spontanément comme ça, comme, tu vois, genre cette période-là, 3 ans et demi, 4 ans, ou est-ce que du coup, ça a toujours été un peu difficile, le rapport à la nourriture? Enfin, je veux dire, même du coup, quand ils étaient plus petits, au moment de diversifier, souvent, ouais. Moi, je sais que dans les anamnèses, c'est quand même des petits qui, souvent, ça n'arrive pas subitement, quoi. Il y a quand même tout un rapport à la nourriture qui est compliqué depuis un moment, quoi.
Alors, ça dépend. T'as aussi t'as différentes causes au trouble de l'oralité alimentaire qui peut être là à présent depuis la naissance ou qui peut être liée à prématurité.
Oui.
Je trouvais plus mon mot. Donc là, clairement, c'est des enfants où c'est dès la naissance. Par contre, il y a aussi des causes traumatiques et donc un enfant peut développer un trouble de l'oralité alimentaire suite à une hospitalisation, une opération ou une maladie. Une bonne grosse bronchite ou une bonne grosse gastro qui traîne peut effectivement déclencher le trouble. Et parfois, il y a ce côté un peu choquant du trouble où tu as des parents qui vont dire « Mais jusqu'à ces 18 mois, ils mangeaient de tout. » 18 mois, je dis 18 mois au pif. Hein. Mais c'est vrai, parents qui me disent « Ils mangeaient de tout. » Et d'un coup, paf, petit à petit, il a... Alors, il y a des enfants où c'est lié à une maladie, une hospitalisation, et d'autres pas du tout. Du jour au lendemain, les aliments sont plus passés. Et ça, c'est très, très dur pour les parents.
Oui, parce que... c'est inquiétant. Et c'est vrai que... Bien sûr. C'est source d'anxiété. Mais complètement. C'est vrai que tu as donné du coup des bons repères en termes de quand est-ce qu'on consulte, à partir de quand on consulte et du coup qui on consulte. Déjà, on parle à son médecin, je pense.
Oui, alors, juste pour revenir sur quand est-ce qu'on consulte, moi je réponds toujours la même chose, c'est quand il y a souffrance. Comme on le disait tout à l'heure, en fait, si on n'en souffre pas, ça ne sert à rien d'aller se prendre la tête à aller voir des pros alors que ça va être des prises en charge longues et contraignantes. Typiquement, dans certains pays, les attitudes que nous, on attribue à un trouble, alors évidemment, je ne parle pas des nausées, vomissements, etc., mais ailleurs, ça pourrait être tout à fait accepté et passé, et parce qu'il n'y a pas de souffrance, donc personne ne va se poser la question. Je dis certains pays parce que je pense à mon mari qui est pas né en France et qui a eu une période comme ça où il ne mangeait plus du tout, il restait plus à table, il s'en allait, il s'enfuyait. Sa maman, elle a fait le lien, elle s'est dit le seul endroit où il bouge pas, où il est à peu près calme, c'est son bain parce qu'il aime être dans l'eau. Et pendant quelques semaines, sa mère l'a mis dans le bain, l'a laissé jouer et elle le nourrissait dans le bain.
C'est vrai, un truc de fou.
Donc ça, c'est dans un pays arabe, c'est au Liban. On peut se dire, est-ce que une maman française de 2022 se serait pas dit, mais attendez, là, mon enfant, il tient plus à table, il part, il s'en va, il se cache dans le grenier parce qu'il veut pas manger, etc. Là, cette maman-là, il n'y a pas eu souffrance, elle s'est dit, quand est-ce qu'il bouge pas dans son bain, il accepte que je le nourrisse dans son bain, je vais le nourrir. Il était relativement grand, il devait avoir au moins 3 ou 4 ans. Je vais lui redonner à manger moi-même dans son bain et c'est passé.
Et c'est passé, et c'est trop marrant.
Voilà, est-ce que c'était un trouble ou pas? On ne sait pas, on ne saura jamais. Est-ce que ça aurait pu devenir un trouble? On ne saura jamais, mais c'est en ça que je vous dis, s'il n'y a pas souffrance, laissez tomber.
Moi, ça s'est arrivé une période aussi. Je sais que ma fille a eu tout un moment, elle ne voulait plus manger à table. Et du coup, c'était plutôt la table basse, debout. Tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça, des petits... Et moi, c'est pareil, du coup. Après, moi, je suis formée et du coup, je m'étais dit, pas d'inquiétude. Il y a des trucs qui peuvent changer complètement du jour au lendemain. Hop, j'ai commencé à lui servir son plateau sur la table basse. Et puis, du coup, qu'elle puisse être autonome et puis marcher, bouger et tout. C'est passé. Ça a duré quelque chose comme 2 semaines et demie, 3 semaines, et puis c'est passé, elle est revenue à table,
elle avait envie de revenir avec tout le monde. Alors, je dirais que dans cette pathologie, il y a aussi un souci qui est que il faut pouvoir accepter de renoncer à certaines conventions sociales, au moins temporairement. Et ça, pour certaines familles, c'est vraiment très dur. C'est aussi pour ça que j'ai parlé de culture et de pays, parce que ailleurs, est-ce que c'est tellement important que les enfants soient à table avec la famille à telle heure? Pas forcément. Donc là, il se peut que dans la prise en charge, vous soyez amené à devoir abandonner
lâcher,
temporairement. Voilà, certaines règles de propreté, certaines règles de politesse, etc., certaines conventions sociales. Mais en tout cas, si vous avez un doute et qu'il y a souffrance, eh ben, vous pouvez donc demander un bilan avec une orthophoniste, une ergothérapeute, ou il y a aussi des psychomotes spécialisés qui le font. Mais quoi qu'il arrive, il vous faudra une ordonnance. Donc la première étape, c'est d'aller voir un médecin et de demander une ordonnance pour un bilan, parce que ça, c'est obligatoire. On ne peut pas travailler sans.
Tout à fait. J'ai d'autres questions. J'ai encore quelques questions. Il faut qu'on avance un petit peu. Un enfant de 3 ans encore. Là, j'ai quand même pas mal de gens qui ont... Il y a un truc autour de 3 ans. Enfin, c'est vrai que c'est assez fréquent quand même. Là. En tout cas, toutes les questions, c'est enfant de 3 ans en tout cas. Qui, cette fois, met beaucoup de choses en bouche, beaucoup trop de choses en bouche et qui mange très vite. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Puis qu'est-ce qu'on peut... Enfin, comment on peut aider en tout cas?
Alors, le problème, c'est bien sûr toujours très, très dur à dire sans rencontrer l'enfant, etc. Ouais. Mais ça peut faire penser, là, pour le coup, à une hyposensibilité, à un enfant qui ne sentirait pas bien et qui, du coup, recherche de la stimulation. Ce qu'on peut potentiellement tester, là encore, sans connaître l'enfant, ça ne marchera peut-être pas du tout, mais ce qu'on peut essayer, c'est de proposer justement des stimulations. Des choses suffisamment stimulantes pour venir lui donner ce feedback tactile dont il a besoin. Ou pourquoi pas lui proposer, évidemment sous surveillance, une petite brosse à dents électrique qui pourrait venir passer un petit peu partout dans la bouche, etc. Et revenir un petit peu stimuler tous ces endroits-là qu'il a besoin d'explorer et où il ne sent pas suffisamment. Évidemment, si ça persiste ou s'il a tendance à avaler tout rond, par exemple, ou à s'étouffer, là, ça peut valoir le coup de voir une ortho pour vraiment aller creuser à ce niveau-là et puis surtout rééduquer, pourquoi pas, une déglutition, enfin une séquence de mastication et déglutition qui ne serait pas forcément hyper efficace, puisque s'il ne sent pas bien, on peut se dire mon aliment est mâché et hop, je l'avale, alors qu'en fait, il n'était pas suffisamment mâché. Et
ouais, c'est ça. Puis après, du coup, trouble digestif après, derrière. Hein, je sais que j'en avais comme toi qui avalait tout rond, mais du coup, après, bonjour dans le ventre. Hein.
Ah oui, puis du coup, ils ont mal au ventre et tout ça, ils ne sont pas bien, c'est normal. Hein.
C'est sûr. Mais du coup, effectivement, donc toi, tu préconiserais, en fait, souvent, moi, c'est ce que je remarque, hein, c'est souvent des enfants qui ont besoin de beaucoup de stimulation et du coup, ils en mettent beaucoup dans la bouche pour avoir vraiment la sensation dans la bouche. Mais du coup, toi, tu penses qu'il faut un peu stimuler avant le repas, du coup, genre un peu de...
Ouais, pourquoi pas.
En dehors des repas.
Moi je serais venue en dehors des repas, de toute façon c'est jamais en mangeant, mais il y a deux choses qu'on peut faire, par exemple en dehors des repas, effectivement venir stimuler un petit peu pour que l'enfant apprenne à découvrir sa bouche, à connaître les limites de la bouche, etc. Et pendant le repas on peut tenter des petites choses aussi, typiquement lui faire goûter la glace, des choses très froides, ou lui proposer de boire par exemple de l'eau pétillante bien froide qui va donner un feedback hyper important. Parce qu'en fait l'angoisse dans tout ça, il faut bien comprendre que si je n'ai pas de sensation suffisamment en bouche, je ne saurai jamais où est vraiment l'aliment, etc. Donc, au moment de l'avaler, il faut bien comprendre que c'est hyper dangereux. Parce que si je ne sais pas où il est ni par où il passe, tout moment, je me plante et c'est des angoisses de mort, en fait, qu'on a tous quand on manque de s'étouffer. Et là, l'eau pétillante, ça va venir lui donner, bien froide, ça va venir lui donner une info. Ok, l'eau est là, quand j'avale, ça passe par là, etc. Donc, des petites choses comme ça qu'on peut tenter. Et bien sûr, faire bien attention, parce que potentiellement, ça peut être des enfants qui, du coup, vont se brûler l'œsophage s'ils ne se rendent pas compte que c'est très, très chaud.
Oui, c'est ça. C'est vrai que, du coup, au contraire des enfants hypersensibles qui, du coup, eux, vont avoir du mal à mettre beaucoup en bouche et qui vont recevoir tout de suite très vite les infos. Et qui, c'est des enfants qui, souvent, ont du mal avec les morceaux ou vont avoir du mal avec ce qui est épicé, ou les enfants qui sont hyposensibles, eux, du coup, ils ont du mal justement à sentir si c'est chaud, si c'est froid. Enfin, oui, du coup, ils ont besoin d'un haut niveau de sensation pour le détecter. Mais du coup, effectivement, ils peuvent se brûler ou ils peuvent avaler tout rond. Donc, mais bon, un petit tour chez l'ortho, ça peut être pas mal quand même. Si c'est vraiment tout le temps comme ça que l'enfant enfourne un peu dans la bouche, ça peut être bien de faire un petit travail à ce niveau-là, je pense, effectivement.
Ouais.
Alors, autre question, des petites idées. Alors, du coup, ça, je dirais qu'il faudrait aussi aller sur ton compte, mais bon, des petites idées pour intéresser les enfants à manger des fruits et des légumes.
Bah oui, j'ai fait une série de posts là-dessus.
Ouais, c'est ça. Hein. T'as déjà parlé sur ton compte. Hein.
J'en parle beaucoup parce que, bah justement, c'est, bah en tout cas, c'est une super idée, c'est une super démarche. La démarche qui est là derrière, de se dire, bah, je vais essayer de les y intéresser, je pense que c'est très intéressant parce que y a des choses à faire. Et effectivement, bah, sur mon compte, je donne plein d'alternatives. Je parle des eaux infusées, du format de glace maison.
Ouais, sorbet un peu, voilà.
Des soupes, des chips de légumes, voilà. Je parle de beaucoup de choses. Oui,
les
c'est vrai.
Qu'est-ce qu'on a tenté. Bon, chez nous, ça a été un peu un fiasco, hein. Mais bon, enfin, mon mari et moi, on adore. Franchement, j'ai adoré. J'avais jamais testé du coup les choux-fleurs et les carottes sous forme de pickles. Et franchement, j'adore. On en a mangé même un peu en raquette la dernière fois. C'était canon. Tu sais, à la place des cornichons, je trouve ça trop bon avec le fromage à raquette. Mais alors les filles, ben non, c'était échec. Après, mais par contre, on a aimé ça
aussi. Hein.
Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai envie de tester avec les poivrons, du coup. Ça doit être bon, les poivrons.
Ça se fait aussi. Ouais. J'ai vu que des gens qui mettaient du concombre, du poivron.
Je pense que la betterave, ça se fait aussi.
Ouais, j'ai vu ça aussi. Et puis après, bah, t'as des gens qui aiment, faut aimer. T'as des gens qui mettent l'ail carrément. L'ail et l'oignon.
Mais ça se met. Moi, du coup, je suis d'origine espagnole. Ça se mange beaucoup en Espagne et c'est trop bon. Franchement, ça fait partie des tapas que tu manges en Espagne. Du coup, l'ail sous forme de pickle, enfin, chez nous, on adore, mais bon, c'est vraiment trop bon. Enfin, moi, j'adore. Mais voilà. Mais du coup, il y a plein d'idées sur le compte de Marie, justement, pour donner des petites idées pour justement apprivoiser un peu les fruits et les légumes de façon un peu différente, parce que c'est vrai, on va le dire quand même, hein, c'est quand même, ça fait partie des choses que les enfants repoussent le plus facilement, quand même, les fruits et les légumes, surtout les légumes, mais bon, même les fruits aussi, hein, c'est vrai que du coup, souvent, ils n'aiment pas toutes les présentations des fruits, quoi. Quand il y a du jus, quand c'est mouillé, c'est parfois difficile pour les enfants de manger ces textures-là. Mais en tout cas, il y a plein de petites idées à piocher sur ton compte. J'avais du coup une autre question qui, là, à mon avis, évoque plutôt une hypersensibilité. Un enfant qui a du mal à manger des aliments qui se dispersent dans la bouche comme la semoule et que ça provoque du coup des tremblements et des réactions. Enfin,
ouais.
La maman disait des tremblements, mais je pense que du coup, tu vois, c'est des petites réactions un peu genre d'hypersensibilité, quoi. Comment on gère ça? Enfin, voilà. Est-ce que tu as des idées à donner comme ça, même si c'est difficile quand on n'a pas fait le bilan de l'enfant, mais...
Ouais, et puis alors là, pour le coup, ça vaut le coup de s'y pencher parce que ça peut être un peu dangereux aussi.
Oui.
Dans la mesure où si il y a des petits bouts de semoule, des petits bouts de riz, machin, qui sont mal gérés, qui peuvent aussi être avalés tout rond, voire même passer dans la trachée. Et donc,
fausse route, quoi. Faire des fausses routes.
Voilà. Ouais. Faire des fausses routes, etc. Il y a le problème d'hypersensibilité, effectivement, mais il va y avoir un problème sous-jacent qui est probablement un problème moteur parce que du coup, c'est hyper dur à gérer, cette texture dispersible. Mmh. Et on en revient toujours un petit peu au même, c'est que de toute façon, bien sûr, d'un point de vue sensoriel, c'est pas agréable, etc. Ça peut valoir le coup de venir proposer de la désensibilisation. Là aussi, la brosse à dents, ça peut être efficace et intéressant. Mais d'un point de vue moteur, il va falloir s'assurer que ça peut être géré. Si c'est pas le cas, effectivement, pourquoi pas être accompagné pour venir gérer ça, vérifier que la langue fait bien son travail, que les lèvres peuvent se fermer correctement, etc. Parce que sinon, l'enfant va toujours être gêné et c'est des textures vraiment dures à appréhender.
Donc, oui,
pour qu'au niveau senso, ça puisse être réglé et que ça pose plus de problème, je pense qu'en sous-jacent, il faut déjà que le moteur roule, quoi. Que ça
oui.
Fonctionne.
Mais après, il y a aussi le fait, après je sais pas, hein, mais de mettre ça un petit peu dans de la sauce, ou enfin tu sais que du coup ce soit un peu plus lié et que du coup ce soit une texture moins sèche. C'est-à-dire que du coup la semoule la faire un petit peu plus humide. Enfin, après, bon, c'est un. Ou que du coup elle soit dans de la crème ou dans de la sauce, ça peut aider aussi à mieux gérer la texture et que ce soit moins
dispersible. Ouais.
Ça peut aider aussi à gérer et à appréhender cette texture-là, mais c'est vrai que du coup, si c'est quelque chose de récurrent et de fréquent, je pense qu'un bilan chez l'ortho, c'est quand même pas mal. Enfin, ou chez l'ergo, du coup.
C'est vrai que moi, j'ai jamais le réflexe de proposer des sauces, que j'ai tellement l'habitude. Des enfants qui ont des troubles alimentaires qui, du coup, supportent pas les sauces, que tu vois, j'ai même plus le réflexe de dire, mais oui, c'est ça en fait. Le problème, c'est que la texture est dispersible, que c'est difficile de la mâcher correctement, efficacement pour que ça s'amalgame en quelque chose de pâteux. Donc, pourquoi pas venir aider avec une petite sauce ou la cuisson? Mieux que plus cuire le riz,
ça plus cuit du coup, ou du coup que ça ce soit un petit peu plus collant, quoi. Un peu surcuit, ça peut aider, en tout cas pour le riz. Après, la semoule, ça peut être aussi un peu plus surcuit, mais je sais que par exemple, tu sais, tout ce qui est riz au lait ou riz semoule au lait, Souvent, c'est pas bien géré. Enfin, les enfants qui ont du mal, ils ont du mal avec cette texture-là, un peu crémeuse, un peu grumeleuse, quoi, du coup.
Ah, puis le côté double texture, souvent,
ouais.
c'est un peu... c'est mort.
Ouais, souvent, ça
enfin, du coup, ça dépend. Quoi.
Souvent, ça éclate beaucoup. Mais bon, après, quand c'est dans le plat, genre, on mange un couscous et tout, ça peut être dans un peu de sauce. Faut tester, en tout cas. Faut tester pour voir si ça plaît, si ça plaît pas. Mais c'est vrai que, du coup, les enfants qui ont des difficultés alimentaires, souvent, ils n'aiment pas que ce soit mélangé, quoi. Donc, ça aussi.
Le mélange, c'est très dur.
C'est très très compliqué. Souvent, ils aiment avoir le goût brut des choses. Alors, moi, je sais que, en tout cas. Ça revient très fréquemment aussi dans mes prises en charge et même ma fille. Enfin, je sais que ma fille, il faut tout soit bien séparé, tout pouvoir bien ouais. identifier. Ils mettent du temps avant de pouvoir vraiment manger un plat bien mélangé, quoi. Enfin, c'est
ouais.
vrai que.
Enfin, et genre, parfois, en fait, il suffit de prendre le temps de découvrir chaque aliment séparé, etc. et que chaque aliment soit devenu un aliment de confiance pour pouvoir ensuite les mélanger.
Mais bon, ça demande d'être un peu accompagné quand même.
Bon,
en tout cas, il faut, d'après moi, c'est vrai que c'est parfois difficile, en tout cas sans avoir vraiment les connaissances. Moi, là, tu vois, je l'applique automatiquement avec ma fille parce que je le sais, quoi. Mais c'est vrai qu'en tant que parent, c'est pas toujours évident, du coup, d'avoir même le réflexe de proposer l'aliment seul, en fait. C'est-à-dire, du coup, les pâtes bolo ou les pâtes carbo, tu vois, mais de proposer juste les pâtes, les lardons, enfin, tout séparé, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, c'est les enfants, en fait, c'est juste, ils n'aiment pas que ce soit tout mélangé, quoi, ou que ce soit imbibé de sauce, ou que ce soit. Ils aiment pouvoir vraiment lire, avoir une lecture de leur assiette et de leur. Et des goûts, quoi. Et ça vient pas toujours spontanément, effectivement. On se dit pas que c'est ça qui bloque. Je sais que la texture quiche, par exemple, des fois, elle est dure aussi. Moi, ma fille a mis un temps fou à manger de la quiche. Hein. Parce que du coup, tu as une texture pâte, puis du coup, aussi une texture un peu genre omelette, œuf cuit, et dedans des lardons. Enfin, c'est tous ces trucs-là, ça demande. Et maintenant, elle adore la quiche. Hein. Mais c'est vrai que du coup, on a dû y aller.
Tout le temps, quoi. Ouais.
Et ben, en fait, à connaître les aliments séparément. Avant de vraiment pouvoir qu'elle puisse lire l'information dans voilà quand j'ai une quiche j'ai tout en même temps quoi mais et même les lasagnes,
le côté
c'est compliqué.
Texture complexe c'est toujours un peu dur quoi. Mélange de textures c'est toujours
oui mais c'est vrai que du coup une petite guidance un accompagnement ça peut être intéressant et j'avais une dernière question mais bon à mon avis c'est un peu long enfin en tout cas ça demanderait. Mais bon, cela dit, on peut renvoyer, à mon avis, vers un de tes ateliers peut-être. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer pour des ados et des jeunes adultes en termes de rééducation? Là, je pense que c'est plus une ortho qui avait posé la question. Mm-hmm. C'est un vaste domaine. Mais du coup, déjà...
Moi, je trouve ça hyper intéressant.
Voilà, c'est ça.
Ouais, parce que justement, en fait, moi, dans ma région, je me suis retrouvée à être un petit peu la seule à le faire.
Oui.
Clairement, déjà, c'est un peu dur de... Dur. C'est pas dur de se former au trouble de l'oreille alimentaire, c'est juste qu'à l'école, on nous en parle pas beaucoup. Donc, en général, les orthos qu'ils prennent en charge, on fait des formations complémentaires, etc. Et alors, par contre, d'ici à ce qu'on vous parle d'ado-adulte, bon courage. On n'entend parler de rien, jamais. Donc, en fait, moi, toutes les recherches, tout ce que j'ai mis en place, ça a été des recherches personnelles, notamment sur des supports anglo-saxons.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a un gros manque sur la prise en charge de l'ado et de l'adulte dans ce domaine-là,
ouais.
Qui est assez...
Alors que pourtant, on peut faire des trucs très cool. Alors, en fait, pour les ados et adultes, si vous voulez faire un petit peu des recherches et lire un peu, il y a un autre diagnostic qui est désormais dans le DSM-5, qui est l'ARFID, A-R-F-I-D.
D'accord.
Pour Avoidant Restrictive Food, Intake Disorder. Et il est classifié dans le DSM-5, donc pathologie psychiatrique. Donc, pas d'inquiétude. C'est juste lié au fait, justement, qu'avec toutes ces années de mauvaises expériences, on est clairement sur de la phobie. D'où le fait
D'accord.
que ce soit classifié dans les pathologies psychiatriques. Non pas que ce soit dans la tête ou quoi que ce soit, mais vraiment, pour le coup, parce que ça a un impact sur la qualité de vie qui est énorme. Donc, vous aurez probablement besoin d'un accompagnement psy à côté si la phobie est ultra, ultra développée et qu'à ce niveau-là, il y a besoin d'aide. Par contre, nous, ortho, on peut bien entendu continuer d'aider. Et notamment, alors évidemment, on ne fait pas les mêmes exercices, on ne fait pas de la patouille, etc. Mais par contre, moi, je propose souvent des techniques alimentaires qui marchent assez bien. Et du coup, effectivement, j'avais tellement de demandes, notamment en arrivant sur TikTok, où j'ai énormément d'adultes qui se sont reconnus et qui m'ont dit « Mais moi, je suis tout seul, je fais quoi? Comment? Aucune ortho veut de moi, de toute façon, à 30 ans. » Que du coup, j'ai lancé, effectivement, sur le site Parents Équipés, les techniques ado-adultes, Ou c'est vraiment très très court, hein. C'est 7 petites vidéos de moins de 5 minutes, visionnables à vie en illimité, où il y a l'explication de comment utiliser les techniques et les quelques techniques pour que la personne puisse se dire en autonomie, ok, moi j'aimerais vraiment pouvoir manger du fromage, ça me permettrait de manger plus de trucs, bon, bah, je vais faire un chaînage alimentaire et une habituation sensorielle, et je m'y mets et je mange du fromage, quoi. Donc, j'ai essayé de lancer ce petit truc-là qui est là, à disposition pour ceux qui en auraient besoin, parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas grand-chose.
Soit du coup, et donc le format que tu as créé là, du coup, sur ton compte, qu'on peut retrouver du coup sur ton site internet, c'est ça, Parents Équipés?
Ouais, c'est ça, le site Parents Équipés, c'est parents-équipés.com.
Donc, je pense. Tu l'as fait c'est-à-dire qu'un adulte ou un ado lui-même qui aura envie d'évoluer, il pourrait du coup prendre ton atelier pour aller pas à pas vers. Mais du coup, il pourrait être aussi vu par une ortho qui aurait envie de se lancer un peu dans la prise en charge, ou en tout cas d'amener à faire évoluer du coup des ados ou des adultes.
Là, pour le coup, j'ai créé, suite à la demande de pas mal d'ortho, les ateliers pro, où là, c'est évidemment beaucoup plus long, où pareil, sur le site Parents Équipés. Il y a les ateliers pro où là c'est une trentaine de vidéos, c'est beaucoup plus long, où je reprends toutes les techniques alimentaires, plein d'activités sensorielles. Alors c'est plutôt destiné 4-12 ans, mais pour le coup ça peut tout à fait s'adapter pour les adultes. J'ai des orthos qui l'ont pris et qui ont des adultes et qui adaptent, et en plus donc il y a les vidéos, un support PDF pour les activités et un groupe Facebook privé où on D'accord. a uniquement les personnes qui sont inscrites. Donc, je fais régulièrement des lives, je réponds aux questions.
Tu fais du feedback après, puis du coup, on peut échanger entre orthos sur ces sujets-là, quoi. D'accord.
Donc, super. Du coup, c'est vrai que quand il y a une personne, je crois, qui a posé une question il n'y a pas très longtemps sur un adulte, et où du coup, on a pu se dire, je pense que cette activité-là, si on pouvait l'adapter, c'est vrai que là, ça fait bébé, mais si on adapte comme ça, ça peut passer, etc. Et donc, c'est des discussions qu'on a, et donc, je sais qu'il y a des orthos qui l'ont fait, puisque elles sont sur le groupe.
Du coup. Génial. Écoute, super, Marie, hein. Là, du coup, on a fait le tour des questions que j'avais reçues dans la boîte à questions.
Top, t'as eu des questions chouettes, en tout cas.
Oui, franchement, c'était un beau petit moment.
Ouais.
Je pense qu'on a, du coup, alors après, on ne peut pas non plus, en 45 minutes, parler, c'était aussi l'histoire de parler de ce thème dont on parle peu, et puis aussi d'aborder certains sujets dont on parle peu, notamment, tu vois, l'ado ou l'adulte, reparler, grosso modo, de ce qu'était l'oralité alimentaire, la néophobie, donner des petits conseils, des petits tips et tout, mais après, ça n'empêche pas, c'est que des petits tips. Si vous êtes inquiet, il faut absolument consulter, en parler avec votre médecin et consulter ortho ou ergothérapeute pour vous accompagner. Et puis, aller creuser un petit peu dans le compte de Marie, par exemple. Il y a aussi le compte d'ErgoMum, que je trouve bien fait sur le sujet aussi. Je fais un peu de pub pour les copines d'Instagram. Il y a plein, du coup, d'informations à aller piocher, des idées, à aller glaner. Alors, c'est vrai que, du coup, ErgoMum, elle fait plus, j'ai l'impression, de la prise en charge pédiatrique, et du coup aussi même des tout petits, du bébé, plein de choses à aller glaner. Et puis surtout,
on a vraiment du contenu de qualité là sur les réseaux, je trouve qu'il y a plein de choses vraiment
il y a beaucoup d'émulation et plein de choses sympas qui se font, et puis du coup t'as tes ateliers aussi et tes formations qui sont chouettes, si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur le sujet. Mais voilà, du coup on va clôturer là, je pense, ce petit podcast pour aujourd'hui, et puis n'hésitez pas, du coup moi je vais mettre mon podcast en ligne sur du coup évidemment ma plateforme de diffusion de podcast qui sera à retrouver sur les plateformes de podcast, mais je vais le mettre aussi en ligne sur Instagram, et si du coup vous avez des questions, vous pouvez aussi poser des questions sous le post Instagram du coup dédié, j'y répondrai, ou Marie, n'hésitez pas du coup s'il y a d'autres questions qui viennent à l'issue de ce podcast là. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram si jamais vous nous découvrez d'ailleurs, parce que du coup c'est vrai que les plateformes de podcast permettent aussi de diffuser un peu d'informations sur d'autres créneaux. Mais n'hésitez pas, Marie et moi on est très actifs sur Instagram et on vous accueillera avec plaisir parmi nos abonnés. Écoute Marie, à bientôt.
À très bientôt, rendez-vous sur les réseaux, on est sur Instagram.
On se retrouve sur les réseaux très rapidement, et puis du coup, à la prochaine.
Yes, à bientôt.